Assalamu alaikum wa rahmatullah, ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre série Portrait du mois sur éthique. Notre invitée d'aujourd'hui est Yasmine. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alors, ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Donc, vous vous appelez Yasmine, vous êtes étudiante et vous avez fondé l'association My Maraude en 2020. Donc, une association qui a pour but de lutter contre l'isolement au moyen de maraude sociale que vous effectuez avec vos bénévoles. Donc, pour commencer par le plus général, quelle a été votre expérience avant de vous engager dans l'associatif? Est-ce que vous avez pu agir au sein de cette association? Et aussi, comment est-ce que vous avez pu concilier finalement ça avec vos études? Car je pense que vous êtes étudiante en même temps. Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir effectuer tout ça pleinement et quelle a été votre expérience jusque-là?
Alors, pour la première question, concernant l'expérience, finalement, on acquiert de l'expérience sur le terrain. Donc, moi, j'avais une expérience à titre personnel, donc avec. La seule fois que je faisais en famille, comme on fait un peu tous, mais aucune expérience finalement réelle engagée auprès d'une association. Donc tout a été appris finalement sur le terrain et on n'a pas plus formateur finalement que de voir directement les choses en réel et d'apprendre en faisant des erreurs, en se relevant et en comprenant là où il y a des petites problématiques et en essayant de s'améliorer à chaque fois, à chaque action. On essaie de se dire bon, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Après, on peut aussi regarder un petit peu ce que font les autres associations pour voir un peu leur méthode de travailler, mais c'est vrai qu'on se fait un petit peu une propre méthode perso, par asso. Donc après, c'est une question d'habitude. On essaye un maximum de travailler en apprenant à chaque fois et en faisant des petits comptes rendus, des petits bilans, des réunions pour s'améliorer, pour relever les points qui ont été pas forcément satisfaisants ou alors qui peuvent avoir un point d'amélioration. En fait, c'est toujours chercher à faire mieux, parce qu'on peut toujours mieux faire, donc voilà, chercher à s'améliorer. Concernant la deuxième question, est-ce que c'est pas trop compliqué de concilier mes études et l'association? Parfois oui, surtout la période la plus intense, c'est la période hivernale, parce que ça tombe sur une période où les sans-abri ont énormément besoin des associations, d'une part pour des aides d'équipements divers, de repas chauds, etc. Donc c'est vraiment une période qui nécessite énormément de sérieux et d'assiduité pour les associations, donc c'est là où on doit être le plus sur le terrain. Et c'est corrélé aussi à, au titre personnel, mes partiels, mes révisions pour mes examens de début janvier. Donc là, je sors à peine de 3 semaines de partiels, alhamdoulilah. Donc ça a été 2 semaines de révision qui ont été corrélées à 2 semaines d'hiver, qui se suit également de 2 semaines et demie de partiels. Donc le rythme, il est un peu intense, mais on n'a rien sans rien dans la vie, donc de toute manière, on ne pourrait pas se permettre d'arrêter l'activité de l'association parce que Yasmine n'est pas présente. Donc il faut que je prenne sur moi et puis il faut que je fasse en sorte de m'habituer à ça. Après, on dort très peu la nuit, on se repose très peu. Il arrive d'avoir des nuits de 2 heures parce qu'on a beaucoup de travail.
C'est un rythme intense pour vous quand même.
C'est extrêmement intense. Moi, mon téléphone, il est toujours avec moi parce que je reçois toujours des appels de dons. Je reçois des appels de candidats, il y a des choses à régler, il y a des papiers à signer, il y a des choses au niveau des pôles que je dois vérifier. Parce qu'en fait, les pôles s'organisent en interne, mais les vérifications sont toujours systématiquement faites à la fin avec moi. Donc tout ce cheminement-là nécessite ma présence. Donc parfois en cours, ça m'arrive quand le prof il part un petit peu dans des débats. Je profite pour lire un petit peu mes messages et m'avancer. Dans les transports, je suis toujours
en train de...
Voilà, en fait, je suis toujours accordée à l'association, même en vacances, j'arrive pas à décrocher. Mais après, je pense aussi que c'est... D'un autre côté, c'est une volonté de ma part. Hein. C'est que si je veux, je peux. Mais quand on a goûté à l'associatif, c'est compliqué de se décrocher de ça.
Donc c'est une grande force de caractère aussi, que vous puissiez tout gérer à la fois, être présente quand on a besoin de vous. C'est aussi, je pense, une question assez caractérielle aussi chez vous, d'être battante en permanence, de toujours être présente quand on a besoin de vous finalement, même quand autre chose peut vous préoccuper.
Oui, et surtout savoir compter sur ses équipes. Moi, je compte énormément sur mes équipes. À l'heure actuelle, My Maraude n'est rien sans ses bénévoles, sans ses 300 bénévoles. My Maraude peut amplement tenir sans moi. Je ne suis pas indispensable à l'association, je le sais. Même si ma présence elle est importante pour gérer, les bénévoles ils se sont déjà retrouvés plusieurs fois seuls et ils ont réussi à gérer des actions sans moi. Mais il faut les former, il faut leur expliquer, ça prend du temps. Et donc, du coup, voilà, former ses équipes. avoir un lien avec ses équipes, déléguer, c'est important.
Donc ça a été finalement tout un satisfaisant parcours, c'était beaucoup d'apprentissage de vie. J'imagine cette étape que vous avez passée lorsque vous avez décidé de fonder My Maraude avec vos équipes, avec vos bénévoles. Et donc d'ailleurs un sujet, quel a été pour vous le déclic finalement, le jour où vous êtes dit bah, je vais m'engager dans l'associatif, et même au-delà de ça, au-delà de vous engager, être finalement l'auteur de votre propre projet pour activer vos maraudes vous-même, en fait vous avez tout géré comme vous l'avez dit, vous avez appris sur le tas. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est bon, je me lance dans l'associatif, malgré le fait que voilà, vous soyez étudiante et que vous ayez une vie à part finalement?
Alors moi c'est une histoire personnelle qui a déclenché la création de l'association. Donc initialement j'avais toujours eu envie d'aider, après comme je le dis souvent, avoir envie et passer le cap c'est deux choses totalement distinctes. Alors moi j'ai eu il y a 2 ans une longue hospitalisation, donc j'ai eu une immobilisation du bas du corps, donc une paraplégie. Et une tétraplégie, donc les deux. Donc au niveau du bas du corps, je ne pouvais plus rien faire, donc j'ai perdu 100% de ma motricité et de ma sensitivité. Donc la motricité, c'est donc, le fait de se déplacer, ne serait-ce que lever sa jambe, c'était pas possible, et la sensitivité, c'est ressentir le chaud, le froid. Donc ça, c'était perdu à 100% au niveau du bas du corps, et au niveau du haut du corps, c'était perdu à 40%, en particulier la motricité fine. Donc tout ce qui est geste du quotidien, manger, écrire sur son téléphone, se coiffer, c'était pas possible. Donc je suis restée 8 mois en rééducation. Durant ces 8 mois, je me suis battue pour pouvoir remarcher. C'est très compliqué de pouvoir remarcher dans des circonstances aussi intense, parce qu'en fait quand on a une perte des neurones comme j'ai eu, si tu veux, la perte des neurones la perte des neurones ne peut pas être compensée par une greffe des neurones, ça n'existe pas. On peut greffer un cœur, on peut greffer un foie, mais en 2023 on ne greffe pas de neurones. Donc une fois qu'on perd des neurones, c'est irréversible. En principe, c'est très difficilement possible que des neurones se régénèrent, surtout quand on a perdu une forte intensité. Moi, dans mon cas, subhanallah, j'ai réussi à avoir les neurones du bas du corps qui sont revenus. Pour les médecins, c'est un miracle. On sait d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est très compliqué de croire en la guérison. Si on écoute les médecins, c'était pas possible. Maintenant, si on écoute son cœur et sa foi, c'est possible. Donc je me suis battue pour retrouver la motricité, ça a été très long. C'était un parcours qui était vraiment très intense et qui a été surtout éprouvant physiquement, parce que finalement, quand on a connu la sensation de marcher, perdre, c'est très difficile. Parce que du coup, en fait, c'est pas comme un enfant qui apprend à marcher, il a jamais connu ça. Nous, on sait comment faire, c'est juste que la commande entre le cerveau et le bas du corps, la commande périphérique, n'est plus, y a plus de liaison. Donc ça veut dire qu'en fait, on sait comment faire, mais notre corps ne répond pas. C'est là où en fait, il y a une incompréhension entre son propre corps, enfin on sent incompris, parce qu'on a envie de se lever, tout est là pour, le corps est là pour, mais il n'y a pas de signal qui répond. Pourtant, on se voit, on se dit qu'on a la capacité de le faire, et pourtant, c'est pas possible. Donc c'est là où en vient du coup toutes ces démarches, une longue hospitalisation où d'abord on me perfuse, on me remet un petit peu de vitamines dans le corps, j'en ai perdu énormément, j'étais très faible, et donc ça suit 8 mois de rééducation. Pendant ce temps, j'ai réfléchi énormément, je fais beaucoup d'introspection, je reste souvent seule aussi. Il faut savoir que pendant une rééducation comme celle-ci, sachant que c'était pendant le Covid, j'étais seule pendant 3-4 mois parce qu'il y a eu une interdiction de visiter les hôpitaux pour des raisons sanitaires pendant 3-4 mois, donc j'étais toute seule. Donc c'était un moment où j'ai énormément réfléchi, je me suis énormément questionnée sur finalement notre utilité sur cette terre et notre importance, sur le rôle qu'on a joué chacun. En fait, on dit souvent, on parle souvent de communauté et tout, mais on parle aussi, c'est important de parler de notre rôle à proprement parler, parce que on est toujours accordé à un groupe de personnes sans savoir que nous-mêmes on peut être la cause de beaucoup de rien en fait, en investissant, en essayant de s'engager dans quelque chose, et il faut sauter le pas. C'est là où j'ai réfléchi. Après, le déclic, j'ai eu concrètement pendant le Ramadan. En 2021, j'ai été toute seule et je réfléchissais énormément. Et puis je me disais, mais en fait, je savais que je sortais bientôt parce que mon état s'améliorait. J'étais en train de marcher avec un déambulateur. Donc j'étais en train de réfléchir et je me suis dit vraiment, je veux faire du rire, je veux changer, je veux... En fait, j'ai envie de me dire, si demain tu pars, tu quittes ce bas monde, t'as laissé quelque chose. T'as laissé une trace de toi, et laisser une trace de soi quand on a des enfants, c'est bien, mais laisser une trace de soi quand on fait du rire, c'est un cadeau pour moi, c'est comme un enfant, je le vois comme un enfant aujourd'hui, My Maraude, c'est pour moi quelque chose c'est un devoir, Et c'est pour moi quelque chose que, qui... En fait, j'en oublie cette épreuve. Ça, ça... Quand je parle de cette épreuve, je suis émue, mais j'ai aussi beaucoup le sourire. Parce que je pense à My Maraude et je pense à ce que c'est aujourd'hui. Et sans ça, honnêtement, j'aurais jamais créé l'association sûrement de ma vie. Parce que malheureusement, on attend souvent une épreuve pour passer le cap. Il ne faut pas attendre une épreuve, c'est justement pour ça aussi que j'aime beaucoup en parler et que j'en parle sans complexe, sans difficulté, parce que je veux vraiment faire comprendre que moi, ça m'est arrivé, j'ai eu besoin d'une épreuve pour comprendre beaucoup de choses, mais on n'a pas tous cette opportunité-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas tous l'opportunité d'avoir une épreuve dans notre vie. Donc c'est possible de tout simplement ne jamais avoir d'épreuve aussi intense en tout cas, et finalement on oublie d'œuvrer. Et donc c'est pas la logique pour moi, la logique c'est pas d'attendre une épreuve pour œuvrer, c'est plutôt œuvrer et continuer à faire du khair tant que possible. Même quand on est jeune, parce que j'avais 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, perdre la motricité, c'est pas facile. Mais c'est beaucoup de réflexion. Ça fait une grosse prise de maturité. Même si avant, j'étais déjà très... j'avais la tête sur les épaules, mais là, concrètement, moi, ça m'a fait prendre 20 ans dans ma tête. Je me suis dit, OK, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Et ça a été la cause de beaucoup de bienfaits. Donc j'ai créé l'association, donc tout ce qui est démarche administrative à l'hôpital, avec donc du coup deux de mes amis. Et l'association, elle a été fondée officiellement le 27 mai 2021. Et moi, je suis sortie de l'hôpital le 17 mai 2021. Donc en fait, 10 jours suivant ma sortie d'hôpital, je faisais ma maraude avec une béquille et j'étais en train de distribuer des repas. Et c'était ma première maraude de ma vie. Je n'en avais jamais fait avant. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je ne savais pas comment gérer un compte. Je ne savais rien. Voilà, je me suis lancée et aujourd'hui, on a pu... faire tellement de belles choses et la seule chose que j'espère au plus profond de mon cœur et que je demande dans mes prières à Allah Azzawajal, c'est que vraiment il nous permette de continuer à œuvrer dans ce chemin-là, parce que c'est une association qui, on me le dit souvent, il y a beaucoup de baraka dedans, mais en fait c'est parce que aussi la naissance de cette association-là, elle a été faite à un moment qui est hyper important et qui sert de rappel, et j'ai envie que cette histoire-là finalement serve de rappel à un maximum de personnes et qu'elle donne envie de s'engager à des croyants, des non-croyants, à toute personne, de tout horizon, de toute origine, de tout âge. Donc pour moi, c'est hyper important de s'engager.
Mashallah, elle en est d'autant plus touchante, finalement, l'histoire de My Maraude. Ça veut dire que c'est un peu l'histoire de votre vie, enfin en tout cas d'une partie de votre vie qui a été très particulière à vivre pour vous, j'imagine. Ça a été un changement pour, comme vous l'avez dit, de rapport à votre corps, à la Oumma aussi. D'ailleurs, au sujet de la Oumma, est-ce que votre hijab a été un obstacle en fait dans votre engagement? Ou alors, étant donné que c'était dans un cercle plutôt avec vos bénévoles, etc., ça n'a jamais posé problème? Est-ce que votre hijab a une place dans votre engagement ou pas du tout?
Alors, pour rebondir, c'est un lien un petit peu avec ce que je disais juste avant. J'ai porté le hijab à ma sortie d'hôpital. Donc en fait, le 17 mai, c'est ma sortie d'hôpital. C'est le début d'une nouvelle vie. C'est à ce moment-là que j'ai porté le hijab. Donc ça a été vraiment pour moi un nouveau départ sur beaucoup de choses. Et en fait, moi, j'ai pas changé. Ma personnalité, elle a pas changé. Elle a qu'évolué. Donc pour moi, en fait, le hijab, c'était ni un frein dans mes études à la fac. Je laisse même pas la place, même aujourd'hui, à ce que ce soit un frein. Donc j'entreprends, je fais ce que j'ai à faire. Si ça convient, tant mieux. Si ça convient pas, tant pis. Et ça veut dire que si demain, par exemple, dans l'association, je porte mon hijab et que je peux pas avoir accès à un partenariat ou à quelque chose parce que ça plaît pas, parce que l'image ne plaît pas, bah tant pis. J'estime que j'ai pas à m'adapter au code de certaines personnes ou aux mentalités de certaines personnes, parce que pour moi, c'est mon identité. C'est comme je le dis souvent. C'est pas moi qui l'ai inventé. Un hijab, c'est comme une peau. On demande pas aux gens d'enlever leur peau quand ils sortent de chez eux. Moi, on n'a pas demandé d'enlever mon hijab. Donc moi, je le garde. Et à la faculté, on a le droit de le garder. Donc il n'y a aucun souci. Dans l'espace public, j'ai le droit de le garder. Et à l'association, j'ai également le droit. Après, la question, c'est est-ce que j'ai déjà été confrontée à des problèmes? Oui. Mais alhamdoulilah, c'était des choses qui arrivent à tout le monde. C'est des réflexions, par exemple, directement quand on arrive, on nous demande si on est une association musulmane, parce qu'on a un hijab. Encore, bon, ça peut être légitime. Ça peut être aussi directement, moi je donne pas aux voilés, je donne pas aux gens voilés, je donne pas aux... Oui, mais après, moi, anecdote, on m'a déjà dit lors d'une collecte Franprix, appelez-moi la présidente de l'asso. Et en parlant à moi par rapport à mon vol. Et du coup, ça fait rire tous les bénévoles qui étaient à côté. Et après, donc la dame a insisté. Et après, donc du coup, je me suis présentée comme présidente de l'asso. Et là, ça a été un petit peu chaos. Ça a été Mais du coup, voilà, on tombe sur des gens. Et après, moi, j'essaie de leur expliquer, en fait, finalement, parce que je trouve que on ne peut pas laisser passer des réflexions comme ça. Et on ne peut pas aussi laisser penser aux jeunes femmes de la Oumma que c'est un frein. C'est pas un frein, c'est un frein pour certaines personnes, pour nous, dans les faits, oui, c'est un frein. Dans la réalité, il y a des choses qui nous sont refusées, mais c'est pas impossible. C'est pas parce que c'est refusé que c'est impossible. On doit pas s'arrêter à un refus. Moi, je prends les bénévoles voilés, pas voilés, sans distinction d'âge, de sexe, de religion, d'ethnie, peu importe. Et d'ailleurs, pour mes distributions aussi, je distribue à toute personne. Et je veux vraiment que ce concept-là reste et qu'on puisse aussi montrer que oui, on peut être une femme, on peut être voilée, on peut entreprendre. Et que ça déplaise ou pas à la société, aux mœurs de la société, ça m'est égal. Et je veux aussi faire comprendre aux femmes de la Ouma que c'est aussi possible pour elles d'entreprendre et de gérer un groupe d'hommes. Et c'est comme ça, en fait. C'est important pour nous aussi d'être investis et on ne peut pas... toujours, je pense aussi, garder comme excuse ce bouclier de « on est voilé, donc finalement, on ne peut rien faire ». Non, il y a des choses qu'on peut faire, et il y a toujours moyen. Sinon, dans ces cas-là, on arrête tous et on reste chez nous, on ne sort plus de chez nous, et notre vie, elle s'arrête. Et je pense que ce n'est pas la solution. Pour faire comprendre aux gens qu'on est capable, il faut leur montrer. Et donc, du coup, c'est ce que je fais. Je leur montrer, je ne le fais pas pour eux, hein, mais à travers ce que je fais, je sais que ça leur permet aussi de comprendre. Ah bah oui, il y a une voilée, et les voilées, c'est pas tous des femmes qui arrêtent l'école à 16 ans et qui restent à la maison et finalement qui n'ont pas cette capacité-là à réfléchir, à entreprendre. Non, on est aussi capable d'entreprendre des projets, on est aussi capable d'investir la place publique autant qu'une femme non voilée sans distinction.
Okay, je vois, c'est très important en fait cette question du hijab, mais également l'aspect, le prisme sous lequel tu l'as abordé, car c'est vrai que ça peut, dans notre société, c'est bien plus qu'un morceau de tissu sur la tête, malheureusement, et donc ça peut freiner pour beaucoup de choses, et je pense que c'est très important de dire aux jeunes femmes de la Ouma, jeunes femmes et jeunes filles, que, comme tu l'as dit, elles peuvent entreprendre, elles peuvent se prendre en main, en fait, tout simplement, elles peuvent mener des projets, faire leurs études, etc., sans que ce soit un frein. Parfois, c'est plus un frein psychologique que réel, même si on voit que ça peut nous empêcher de faire certaines choses. Et justement, c'est une bonne transition pour la suite. La visibilité, du coup, que tu as, qui forcément a révélé ton action, car finalement, on te voit même sur beaucoup d'interviews, qu'il soit sur YouTube ou autre. Et justement, que ce soit à travers ton voile ou même autre chose, comment est-ce que tu as géré cette visibilité finalement ? Est-ce que ça a beaucoup changé à ta vie ou finalement c'était un facteur en plus auquel tu t'attendais ?
Alors, pour être totalement transparente avec toi, durant la première année de Maïmaroud, j'ai refusé toute interview. Parce que tout simplement, je voulais absolument pas que ma tête soit affiliée à présidente de l'association par rapport au fait que je voulais pas être sur les réseaux, je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas. Et je postais des photos avec les bénévoles, mais j'étais dans la foule. Donc on ne reconnaissait pas qui était Yasmine. On savait que la présidente de Maïmaroud était Yasmine, parce que ça se sait, mais on ne savait pas qui était Yasmine dans les photos. Donc ça, c'était dans un premier temps. Maintenant, dans les faits, ce n'est pas tenable longtemps. Surtout pour une asso qui croit comme Maïmaroud, on ne peut pas toujours se cacher. Et à un moment donné où il y a des interviews qui doivent être faites, moi, le moment où, entre guillemets, je suis un peu sortie de l'anonymat, ça a été cet été. On s'occupait de femmes qui ont été mises à la rue avec leurs enfants à Bagnolet. Et en fait, Maïmaroud s'est occupé avec une autre association, donc Charity Concept. On était la prise en charge de ces mamans-là. On les a accompagnées au tribunal. Maïmaroud a représenté au tribunal ses familles, a appuyé la demande, etc. Il y a eu quasiment tous les journaux. Il y a eu Le Parisien, il y a eu Mediapart, il y a eu... qui sont venus nous interviewer, dont BFM TV. Qui est venu nous interviewer en télé. Et du coup, ça a été la première exposition avec caméra, ça a été rediffusé sur tous les réseaux de BFM TV. L'interview en elle-même a été très très bien, j'étais très satisfaite et j'ai pu aussi expliquer ce que je souhaitais aux journalistes, parce qu'on sait que, moi je pars du principe que je suis pas bête. Les journalistes, ils ont leur intérêt à avoir dedans, moi je voulais le mien. Moi, mon intérêt, c'était qu'on ne décrédibilise pas la cause de ces femmes. Voilà. Moi, ce que je demandais aux journalistes, c'est tout simplement Faut pas que votre interview desserve à ces femmes-là en disant par exemple des choses qui vont extrapoler pour finalement nourrir leurs médias. Moi je voulais pas de ça, donc j'ai directement mis carte sur table avec les journalistes. En échange, eux, ça leur fait de l'audimat, donc chacun y gagne son compte. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir ma tête. Et finalement, après, pour les autres interviews, je me suis dit bon, c'est fait, de toute façon maintenant on s'est quitté. Donc voilà, après moi dans mes proches, on savait que j'avais une association, donc ça se sait. Mais pour après la sphère entre guillemets un peu médiatique, on ne le voyait pas trop. Maintenant on me voit, mais j'essaie toujours de rester un peu à l'écart. Parfois je suis confrontée à être filmée, je le fais, mais je le fais que quand il y a un intérêt. Quand je réfléchis, avant d'accepter une interview, je réfléchis quand je sais que c'est pour un intérêt, que ça va servir, que ça peut permettre d'avoir un déclic, etc. Oui, par contre si c'est une interview pour le plaisir comme ça, non, je préfère ne pas accepter pour me préserver moi et pour préserver plein d'autres choses, parce que s'exposer aussi c'est un exemple bête. Je sais que moi, par exemple, là où j'habite, parfois on me demande, oui, t'es la présidente de l'association Maïmaroud, etc. Et ça me gêne parce que bah, parfois on a juste pas envie d'avoir cette casquette-là et parfois même pour son œuvre c'est pas bien qu'on nous arrête et qu'on nous parle et ça m'arrive de plus en plus donc j'essaie vraiment de prendre du recul par rapport à ça et de me remettre en question, de renouveler mes intentions. C'est hyper important pour moi personnellement de le faire et du coup j'estime qu'être surexposée n'aide pas, mais si à seule condition que j'accepterai, enfin que j'accepte aujourd'hui, c'est si ça a un intérêt pour la Ouma, si ça a un intérêt pour les jeunes, si ça a un intérêt, s'il y a un intérêt derrière, il y a un message à passer, oui. Mais si c'est encore une fois s'exposer juste pour montrer sa tête et dire qu'on est la présidente de l'asso, ça m'intéresse pas. Et c'est pas par fausse modestie, vraiment, je le pense, c'est... il y a aucun intérêt pour moi.
Bien sûr, donc c'est vraiment, vous avez réussi à gérer cette visibilité, donc comme vous l'avez dit, de façon à tracer un peu une frontière aussi, comme vous l'avez dit, pas forcément avoir toujours la casquette de l'actrice de My Maroc. Et à ce sujet, puisque justement vous êtes assez visible, que ce soit dans une sphère plus restreinte ou alors à plus grande échelle à la sphère médiatique, est-ce que vous considérez votre action comme de la darwa à proprement parler?
Moi, je considère honnêtement ça comme de la darwa. Alors, pourquoi? Parce que j'estime que faire darwa, c'est finalement propager une bonne parole, faire en sorte qu'on on parle d'une action ou qu'on fasse un rappel, etc. Moi, j'estime qu'on essaie, avec l'association, de montrer beaucoup de choses positives, surtout de motiver les gens à faire du rire. On montre aussi que, on montre une bonne image de notre communauté en montrant, parce que c'est vrai qu'il faut aussi... appeler un chat un chat, il y a beaucoup de femmes voilées dans l'association, il y a beaucoup de musulmans, même si c'est pas une association musulmane, il y a beaucoup de musulmans, etc. Et ça, encore une fois, c'est dû qu'à la motivation des gens. Donc enfin, on contrôle pas le fait que des gens musulmans s'inscrivent dans notre association plus que dans d'autres, ou alors que peu de personnes d'autres religions s'inscrivent. Ça, on le contrôle absolument pas. Après, les gens, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir et parce qu'ils ont peut-être aussi les mêmes valeurs que nous. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils rejoignent l'association. Maintenant, sur le fait de faire des rois, oui, on estime qu'on le fait parce que, voilà, on propage un bon comportement, on appelle au don. C'est quand même quelque chose de très positif. Après, c'est différent d'un imam qui va prêcher, mais c'est une autre forme. Pour moi, il existe plusieurs formes de darwa. Ça serait pour moi faux de se contraindre à uniquement le prêche d'un imam dans une mosquée le vendredi qui fait le prêche de Jumu'ah, qui explique voilà un petit peu, on va faire un rappel sur le mariage, un rappel sur l'éducation, un rappel sur les drogues, etc. Enfin, rappeler un peu tout ce qu'on vit dans notre société. Bah, finalement, l'aspect de l'association, ça permet de rappeler, c'est un très bon rappel. Moi, je sais que par expérience, j'en parlais encore ce matin, il y a des bénévoles qui ont eu le déclic de se voiler grâce à l'association, en voyant d'autres sœurs voilées. Il y a eu aussi pas mal de personnes qui se sont réformées, qui ont arrêté de faire des péchés parce qu'ils se sont dit, en fait, finalement, je fais du rire, j'ai goûté au rire, à la valeur de faire du bien, donc ça les a motivés. On a énormément de retours et c'est en grande partie aussi pour ça que je dors pas la nuit et que je tiens. C'est parce que je sais que derrière ça, je dis pas que Yasmine a la responsabilité de tout ça, mais indirectement, je me dis que grâce à cette création d'association, il y a des gens qui arrivent à se guider entre eux. Donc c'est pas moi qui suis directement impliquée dedans, c'est tout le monde et c'est la force d'un groupe. C'est-à-dire que le bon comportement qu'on transmet, ça aussi c'est important, on essaie toujours d'avoir le bon comportement, mais c'est pas finalement qu'une question de bon comportement devant les caméras, c'est bon comportement dans notre vie, parce qu'on a ce devoir-là de toute manière, en tant que musulman, en tant que musulmane, j'ai ce devoir-là de montrer le bon exemple, j'ai ce devoir-là d'être respectueux envers mon prochain et j'ai ce devoir-là d'aider mon prochain. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faut véhiculer. Et quand on est en maraude, souvent, bah, les gens, ils sont heureux quand même de nous voir. Et ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils voient des femmes voilées distribuées ou quoi, bah, qui ne sont pas contents, qui restent dans leur coin. Nous, en tout cas, on fait nos œuvres, on fait notre bonne cause. Et on espère vraiment que ça permette de guider plein de gens. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans une période de leur vie très compliquée et qui rejoignent l'association parce qu'ils ont ce besoin-là. Soit ils se sont trop égarés, soit ils ont envie de se rapprocher de la religion, soit ils ont eu un événement... comme un décès ou une maladie qui fait qu'ils ont le déclic, soit des jeunes juste qui ont envie de s'engager. Donc on espère que ça, en tout cas, ça fait partie d'une forme de darwa pour nous.
Donc justement, c'est aussi quelque chose qu'on essaie de montrer à travers la série Portrait du Mois, c'est la diversité finalement qu'il y a dans la sphère de la darwa. On parle voilà, de prédicateurs qui vont faire des rappels, qui peuvent être par exemple très suivis sur les réseaux ou autres, mais il y a beaucoup d'aspects dans la darwa, il y a vraiment tous les domaines sont concernés, c'est pour ça que c'est vraiment important, je pense, de montrer divers profils pour que tout le monde vraiment puisse s'identifier, quelle que soit notre façon de faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux jeunes actuellement pour s'engager, en fait, simplement dans tous les sens du terme, et pourquoi pas aussi pour vous assister, vous, en tant qu'association?
Alors, pour s'engager, déjà, c'est très facile. Alors, on peut s'engager de différentes manières. On peut s'engager déjà en soutenant une association, comme on soutient une cause. Donc, on s'abonne, on partage, on relaie. On peut s'engager en faisant des dons mensuels qui vont être réguliers ou des dons ponctuels. Si on n'a pas les moyens de faire des dons, comme j'ai dit précédemment, on peut partager. On peut être la cause d'un bienfait. Un exemple bête, je suis un jeune de 16 ans. Je suis sur les réseaux sociaux. Je dois me poser la question, quel est mon intérêt d'être sur les réseaux sociaux? Si c'est pour faire du khair, ok. Si c'est pour voir du contenu haram et faire du haram, non. Si je peux, à travers mon petit compte, partager une cagnotte et que grâce à moi, enfin grâce du coup à ce jeune, quelqu'un qui connaît, un proche, un oncle, un cousin, que sais-je, contribue à cette cagnotte, il aura été la cause d'un don. Donc en fait, nous, on essaie de faire comprendre aux gens que finalement, c'est pas que l'aspect « je donne de l'argent », c'est aussi « je partage », « je fais connaître le projet », »,« je fais connaître l'association ». Plus on va faire connaître un projet et une association, réciproquement, plus on aura le moyen d'avoir, enfin l'opportunité d'avoir des dons. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'engagement présentiel. On sent, on en a beaucoup, donc alhamdoulilah, on ne s'en plaint pas. On a beaucoup de jeunes qui s'investissent et franchement, on est très fiers de ça. Parce que dans une association, en fait, finalement, comme on dit, les pairs d'IRS, on se rapproche entre personnes qui se ressemblent. Et alhamdoulilah, on est content d'avoir beaucoup de jeunes. Et du coup, ça a été une association de jeunes, finalement, sans le vouloir. On aurait pu être une association de sexagénaires. On aurait pu, hein. Je contrôle absolument pas l'âge de My Maraud. C'est des facteurs, par contre, qui m'échappent. Qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, ça m'échappe aussi. C'est aléatoire, carrément. Je peux pas contrôler ces facteurs-là. Mais quand on fait le constat, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, on voit qu'il y a beaucoup de musulmans. Donc ça fait plaisir. Et on voit aussi que l'engagement est présent. Donc l'engagement, ça peut être encore une fois de toutes sortes. Mais ça peut également être par le partage. Un partage, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et ça peut nous permettre d'être la cause, encore une fois, de bienfaits. Donc tout en restant dans son lit. Donc c'est important. Au moins, on peut se dire que même en étant en train de rien faire, à proprement parler, on peut aider. Donc c'est toutes ces formes-là qui contribuent finalement à l'évolution de l'association.
Eh bien, comment aussi que Yasmine pour ta venue et également pour les conseils que tu as pu nous donner. J'espère, Inch'Allah, que ça permettra aux jeunes d'avoir le déclic aussi, hein, de pouvoir, comme tu l'as dit, sans forcément vivre une épreuve, s'engager, vraiment, parce que c'est quelque chose d'important, que ce soit d'ailleurs la jeunesse musulmane ou autre. Mais on a ce devoir de donner une autre, une image, une vraie image de la Ummah, finalement, une image positive. Et j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura davantage encore de baraka dans ton association. Et j'encourage évidemment nos auditeurs à pouvoir vous aider également à partager. Donc vous avez une cagnotte PayPal, c'est ça?
On a une cagnotte Eloasso. En fait, on a un Linktree, c'est un lien où il y a plusieurs liens. Donc en fait, directement, dès qu'on arrive en biographie Instagram, donc @mymaraud, tous nos réseaux, notre site internet www.mymaraud.fr. Donc sur le Instagram, on a directement un lien et ce lien-là conduit à différents liens, différentes cagnottes en fonction des différents pôles, différents projets. Donc tout est indiqué sur les réseaux.
Très bien, super bien. J'encourage donc nos auditeurs à pouvoir vous aider, Inch'Allah, comme tu l'as dit, la moindre des actions a son importance. Et j'ai plus rien à dire.
Moi, je finirai avec une petite phrase. Retenez bien que la main qui donne est plus importante que la main qui reçoit. Donc, donnons. Et c'est ce qui est le plus important. Alhamdoulilah.
Barakallahu fikoum d'avoir visionné ce deuxième épisode de la série Portrait du mois. Et nous nous retrouvons très prochainement, Inch'Allah.